Clairement, il regarde la nature avec les outils intellectuels du scientifique. À son époque, on ne fait plus appel à la transcendance au sein même de l'explication scientifique. Depuis à peu près déjà une bonne centaine d'années. Le XVIIIe siècle a reconsidéré en quelque sorte le contrat que la science passe avec la connaissance. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, même un peu du XVIIe, dès lors qu'on s'est mis à expérimenter vraiment, on a exclu du champ des sciences le recours à une transcendance omnipotente pour expliquer ce que l'on voit. S'il y a toute question que vous vous posez sur le monde réel, vous avez une réponse unique et omnipotente, c'est même pas la peine de commencer à faire une expérience.
Est-ce que vous pouvez nous parler de Darwin, de son rôle et de sa théorie ?
La déduction de Darwin, elle est la suivante, si on la ramasse de manière extrêmement courte. Darwin, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'à l'intérieur de ce qu'on appelle une espèce, il y a de la variation. Il y a une aptitude naturelle des espèces à varier. On n'a pas tous la même tête. Et c'est ce qu'on appelle la variabilité, l'aptitude naturelle à varier. Deuxième constat, Darwin, il voit quoi ? Que les horticulteurs et les éleveurs sont capables d'emmener en quelque sorte les espèces là où ils veulent. En 10 000 ans, on fait du loup un teckel. Il y a donc une aptitude naturelle des espèces à être sélectionnées. Même si c'est l'homme qui sélectionne, les espèces, elles se laissent sélectionner. C'est ce qu'on appelle la sélectionnabilité.
Ici, la galerie de l'évolution illustre ce que vous êtes en train de dire.
En partie, oui. Oui. La question que posait Darwin, la question qu'il se posait, c'est pourquoi la nature n'est pas un grand bazar ? Pourquoi tout ce qui a membres a déjà des vertèbres ? Pourquoi tout ce qui a vertèbres a déjà crâne ? Il n'y a pas de vertèbres en dehors de ceux qui ont déjà un crâne. Eh bien, pour répondre à cette question, y a-t-il un agent dans la nature qui explique l'ordre qu'on y voit, l'ordre apparent ? Darwin fait un troisième constat. C'est que chaque espèce a en potentialité une aptitude naturelle au surpeuplement. Le 19e siècle est riche d'exemples. Quand on prend une espèce d'un milieu et qu'on le transporte sur un autre continent, il y a deux réactions. Soit l'espèce disparaît, soit au contraire, elle pullule. Une fois que vous avez fait ces trois constats, Darwin fait son voyage sur le Beagle entre 1831 et 1835.
En terre de feu.
Voilà. Il passe quand même au Brésil. Enfin, il fait à peu près une bonne partie de l'Amérique du Sud. Et puis ensuite, il contourne, il va au Galapagos, etc. Lors de ce voyage, Darwin rencontre des milieux qui ne sont pas perturbés par l'homme. Darwin constate que moins le milieu est perturbé par l'homme, plus le milieu est riche en espèces. C'est surprenant. En dépit de la capacité de chacune à surpeupler, elle ne surpeuple pas. Eh bien, justement, Darwin fait une déduction. Chaque espèce représente, pour chacune des autres, une limite. Et voilà cet agent sélectif sur lequel il s'interrogeait. D'où cette idée de sélection naturelle. Malheureusement, on dit sélection naturelle, on pourrait préférer comme mot... succès reproducteur différentiel. Et ça serait à peu près pareil.
Look.